Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que, qui que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu vous sont données. Et cela sans condition, quelle que soit votre foi ou votre absence de foi, quelles que soient vos convictions ou vos doutes, quelle que soit votre Église, bien entendu, Dieu vous bénit et vous accompagne avec tendresse. C'est pourquoi, de génération en génération, depuis l'aube de l'humanité, notre espérance est en Dieu. Bienvenue à chacune et à chacun dans cette maison. Merci d'être là. C'est une force de se rassembler, de faire corps pour célébrer notre Dieu et s'ouvrir à ce qu'il désire apporter à chacun aujourd'hui. C'est un bienfait d'être ainsi rassemblé. C'est vers lui que nous faisons monter nos louanges étonnées avec ce psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'humain pour que tu te souviennes de lui, et ton enfant pour que tu le visites ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu le couronnes de gloire et de magnificence. Tu lui donnes de gouverner sur les œuvres de tes mains. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et je vous propose de faire ensemble place à notre louange avec le chant du psaume 25. À toi, mon Dieu, mon cœur monte. C'est le numéro 15 de notre psautier, dont je vous propose de chanter les trois strophes. Numéro 15. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ nous donne cette confiance de nous adresser à Dieu en toutes circonstances, avec la certitude qu'il ne nous rejette pas, mais qu'il nous accompagne sur le chemin de notre vie vers le meilleur. Alors c'est ce que je vous propose de faire dans la prière, en suivant du cœur cette repentance de David, grand pécheur devant l'Éternel, mais travaillant sur son problème avec sincérité. Alors je vous propose de suivre ce fameux psaume 51. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Mais tu veux au fond de moi la fidélité. Dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, mon Dieu. Renouvelle, raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint, mais donne-moi la joie d'être sauvé. Que ton esprit généreux me soutienne. Alors, aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins et vers toi reviendront les égarés. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche proclamera ta louange. Chacune et chacun peut recevoir de Dieu directement au fond de lui-même la certitude de son pardon et la grâce d'une vie renouvelée, augmentée. En effet, voici ce que dit l'Éternel : je ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il puisse vivre, avancer. Alors recevons de la part du Christ l'assurance de notre pardon, de cette bienveillance irréductible qu'il a pour nous, encore et encore, toujours à nouveau, avec ces paroles qu'il nous dit en Christ, se penchant vers nous. « Mon enfant, tes péchés ont été pardonnés, ta foi t'a sauvé, avance dans la paix. » Je vous propose de chanter notre reconnaissance avec le psaume 116, « J'aime mon Dieu, car il entend ma voix », c'est le numéro 57 de notre psautier, dont je vous propose de chanter les quatre premières strophes. Psaume 116. Dans le cadre de cette série de prédications que je vous ai proposée sur l'incroyable beauté de la vie humaine, je vous propose ce dimanche de méditer sur cette bénédiction formidable que sont chaque moment de bonne entente, de complicité avec une personne, quelques autres personnes. Pourtant, le philosophe Jean-Paul Sartre, dans une de ses pièces de théâtre, nous dit que l'enfer, c'est les autres. C'est pas faux. Il ajoute, on évoque parfois le soufre, le bûcher, le grill. Ah, quelle plaisanterie! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. David, dans ce psaume 133 que je vais vous lire, nous dit, lui, que le paradis sur terre et la vie éternelle, c'est les autres. Et c'est vrai aussi. Pourtant, David sait que ce n'est pas facile de vivre avec les autres. Il a vécu l'irascible roi Saül, le poursuivant, et il a fait connaître lui-même un enfer sur terre à Bethsabée et à Uri, son mari. Alors David aurait pu dire avec Sartre, ah, comme les disputes, les coups par derrière, la volonté de l'emporter sur les autres, de juger, que tout cela est nocif, est triste, est amer. Mais David nous propose plutôt une montée à partir de cette expérience. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable, chaque petit moment de bonne entente avec d'autres. C'est une véritable bénédiction qui nous permet d'avancer. Et David trace dans ce psaume un chemin possible de l'enfer dont Sartre parle à un paradis que Dieu a planté pour nous. Il en parle avec des images que nous chercherons donc à lire, à décrypter. Psaume 133, psaume des montées de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer unis. C'est comme l'huile précieuse sur la tête descendant sur la barbe d'Aaron, descendant sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon descendant sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors c'est ce psaume que je vous proposerai de creuser, avec aussi cet appel de l'apôtre Paul à nous saisir de notre vocation chrétienne d'aider l'humanité à faire corps. C'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, où Paul nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez tous été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de nouveauté et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et afin de laisser le temps à ces textes de résonner en nous, je vous propose de prendre le cantique 362 de notre psautier. Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Les trois strophes de ce cantique 362. Thank you. Alors ce psaume 133 de David appartient à la série des psaumes des montées. C'est un recueil de prières d'une quinzaine de psaumes, de réflexions, qui sont là pour nous aider à nous élever spirituellement, à élever notre vie. Et peut-être effectivement serons-nous alors nous-mêmes un petit peu plus bons et agréables au passage. Alors c'est donc à une marche montante à laquelle David nous convie, nous invite. Ça veut dire aussi que la perfection en ce domaine n'appartient qu'à Dieu, et donc il n'y a pas de culpabilisation du tout qui est en jeu. Nous sommes toutes et tous en chemin dans notre évolution, quelque part entre une sorte de singe un peu sauvage et cet humain tel que Dieu l'a toujours rêvé, espéré, qu'incarne Jésus-Christ. Nous sommes tous frères et sœurs par ces deux pôles, finalement, entre lesquels nous sommes. Ce psaume de David nous donne plusieurs pistes pour avancer sur ce chemin, et ce psaume utilise des images qui semblent un peu curieuses en première lecture, mais qui sont en fait très courantes dans la Bible. La première clé qui nous est donnée dans ce psaume, c'est le fait que David parle de frères et de sœurs. Il aurait pu parler de paix avec les autres, il aurait pu parler de paix avec son prochain, mais il parle d'union entre frères et sœurs. Cela donc nous invite à nous considérer toutes et tous comme des enfants du même père ou de la même mère, qui est évidemment Dieu. Dieu est donc celui que nous partageons tous. Il est au-dessus de tous, même de ceux qui jouent les terreurs, et il nous unit, il nous rend responsables les uns des autres. Et donc, de nous entendre au minimum, ne serait-ce que pour ne pas lui faire honte avec nos disputes ridicules ou fratricides. David introduit alors l'image que cette union fraternelle, elle est comme une huile précieuse, répandue sur notre tête, nous dit-il. Alors l'huile, bien sûr, est une image très classique dans la Bible, mais comme dans tous les pays méditerranéens où l'huile d'olive est la base de la vie, finalement. L'huile est une image de la bénédiction de Dieu sur notre personne, dans les multiples dimensions de notre personne, nous donnant à la fois une capacité et nous donnant aussi l'enthousiasme pour faire avancer le bien dans le monde, aussi peu que ce soit. C'est donc comme un sacre qui est donné à chacune et à chacun, qui fait de nous un Christ ou une Christ. David donc mêle ici intimement le fait de recevoir cette onction spirituelle, cette onction de l'Esprit-Saint, d'une part, et d'autre part, d'être dans une atmosphère bonne, fraternelle, d'autre part. Cette imbrication que David tisse ici me semble intéressante et vraie. Une foi saine devrait nous donner un peu plus de force pour supporter les autres, dans les deux sens du terme, les supporter quand ils sont pénibles et les supporter quand ils faiblissent, et puis aussi pour nous soucier donc des autres. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ne serait-ce qu'un bon petit moment de communion fraternelle, c'est si bon que c'est un terreau favorable pour nous ouvrir alors à la louange, à la spiritualité, nous ouvrir à ce Dieu qui effectivement nous bénit et nous mobilise pour le service actif. C'est l'effet effectivement de la louange. Alors nous retrouvons ce tissage entre l'entente fraternelle et la bénédiction de Dieu dans bien des paroles de Jésus-Christ qui jumellent l'amour de Dieu et l'amour du prochain. ou quand Jésus nous invite à prier seul à seul, cœur à cœur avec Dieu dans notre chambre porte fermée, et que notre prière alors nous ouvre à ces paroles « Notre Père, donne-nous notre pain ». Et non seulement « Mon Père, donne-moi du pain pour moi ». C'est une révolution spirituelle et éthique. La montée dont parle ce psaume nous invite donc à marcher sur ces deux jambes. Qui veut essayer de monter au Cervin à cloche-pied ou ne serait-ce qu'au Salève ? Pas facile. Là, on nous propose donc ces deux jambes. Marcher est alors bon et agréable, comme le dit ce psaume. Simple comme se remémorer un moment d'union agréable et douce et nous en réjouir devant Dieu, la ruminer dans notre prière. Simple comme la joie de prier Dieu dans la méditation de son amour infini, de son pardon éternel, et se surprendre tout d'un coup à penser à d'autres personnes et à ce dont elles auraient peut-être besoin. Le lieu où se tissent ces deux attachements, ces deux forces, c'est notre vie quotidienne. C'est notre réflexion, notre observation, c'est notre prière. Et ce sont nos gestes, petits et grands, que nous sentons faire avancer les choses. Le psaume précise que cette huile de bénédiction, elle coule sur notre tête jusqu'à notre barbe. Alors ce n'est pas réservé aux barbus d'entre nous, car en hébreu le mot « tête » signifie aussi « jeunesse » et le mot « barbe » signifie aussi « vieillesse ». C'est donc une bénédiction et une vocation pour toutes les périodes de notre vie. Alors c'est une éducation qui commence dès l'enfance. Si nous n'avions pas été au moins un petit peu aimés dans notre enfance, nous n'aurions même pas appris le langage. C'est aussi un apprentissage pour les jeunes, difficile apprentissage dans l'adolescence. Et puis la personne active progresse aussi dans un couple, dans une famille, dans son travail. Et c'est dans le grand âge, comme le dit ce psaume avec l'image de la barbe, c'est dans le grand âge que nous pourrons commencer à mieux saisir combien c'est précieux la foi et la bonne entente, combien c'est bon, utile et agréable, et que c'est une priorité, deux priorités, une double priorité dans notre vie. Alors chaque jour de notre existence est ainsi non pas un jour de moins à vivre, c'est un jour de chance pour maturer notre foi, notre cœur, notre service des autres. C'est une bénédiction incroyable que chaque jour qui nous est donné. Mais en regardant de plus près le texte, il y a en réalité deux barbes. La seconde étant la barbe d'Aaron. Alors vous connaissez le personnage d'Aaron, le frère de Moïse, le premier grand prêtre d'Israël, celui qui est chargé d'apporter la bénédiction à tous les enfants d'Israël avec les paroles que nous disons en général à la fin du culte comme bénédiction, comme envoi. Eh bien, Aaron, il incarne donc la religion dans la Bible, l'union fraternelle et la bénédiction de Dieu par son esprit dégouline comme une huile mise sur notre tête, venant d'en haut, et dégouline sur notre barbe d'Aaron, nourrissant la fécondité de notre culte et de notre prière. Ce n'est alors pas de simples rites que nous répétons, mais ça devient quelque chose de fécond, plus fécond encore. C'est pourquoi il est excellent que vous ayez eu ce geste de venir au culte ce dimanche matin. Vous êtes une bénédiction pour nous, une huile sainte sur notre barbe d'Aaron, renforçant, mobilisant la prière de chacune et de chacun, ici présent dans cette maison ou sur Internet. Voilà que l'huile continue à dégouliner, nous dit David. Dégouline de la tête, sur la barbe, jusque sur les bords des vêtements d'Aaron. Alors cela aussi, nous savons ce que c'est. Son châle de prière était bordé de franges que les Juifs portent encore sur leur châle de prière ou bien même dans leur tenue civile pour les plus traditionnels et qu'on appelle les tzitzit. Ces franges qui dépassent du vêtement, elles symbolisent les petits et les grands actes de justice et de bonté que nous pouvons avoir par grâce dans notre vie quotidienne. Et donc cette bénédiction dont parle David, aussi bien l'Esprit Saint que la bonne union fraternelle dont nous pouvons bénéficier, c'est une bénédiction sur notre vie intérieure, certes, sur notre foi, notre prière, mais de là elle dégouline ensuite sur nos actes de solidarité qui seront d'autant plus féconds et productifs. Car la bonne intention ne suffit pas toujours pour que nos gestes de service puissent réellement être féconds dans la personne que nous avons essayé d'aider et dans notre monde. David poursuit encore en prenant enfin une autre image. Il abandonne celle de l'huile pour parler de la bénédiction de Dieu. Il prend une autre image de la bénédiction, très classique aussi. Dans ces pays où il pleut très rarement, la rosée est comme un miracle, effectivement, survenu de l'invisible et pourtant portant la vie. Aucun nuage à l'horizon, pas de pluie, et pourtant une humidité qui va pouvoir donner la vie à notre potager. David utilise cette image de la bénédiction de Dieu pour donner ici un message prophétique et même subversif, révolutionnaire. En effet, normalement, la rosée, image de la vie que Dieu nous donne, elle coule habituellement dans les textes bibliques depuis Sion, la colline au cœur de Jérusalem, le centre religieux et politique, et dégouline en fleuve d'eau vive, irriguant notre existence et l'humanité tout entière. Mais dans ce psaume, c'est l'inverse. La rosée vient de l'Hermon, c'est-à-dire de la frontière nord, en direction de Babylone, le terrible ennemi de Ninive. Et puis la rosée vient donc de l'Hermon, et cette bénédiction de Dieu va dégouliner, va couler, va fertiliser le pays entier jusqu'à la montagne de Sion elle-même. Cette image dit que c'est dans la rencontre avec notre ennemi, à la frontière, quand on a ainsi tenté d'augmenter d'un brin notre bonne entente fraternelle, là où c'est difficile, que nous recevons une avancée extraordinaire sur notre vie, sur notre foi, et même sur la galaxie entière, parce que c'est ça que dit cette image en parlant de la frontière et du centre. C'est ainsi en science, en théologie, en philosophie, en éthique. C'est souvent aux limites de nos modèles, là où ils ne fonctionnent plus très bien, présentent des exceptions manifestes. C'est là que nous pouvons chercher et donc que nous pouvons progresser, apporter des modèles plus satisfaisants encore, pour plus de fidélité et de justesse. C'est aussi quand nous faisons un petit pas de plus vers Dieu, quand cela nous est difficile, quand nous creusons notre théologie sur une question épineuse, peut-être un peu trop difficile pour nous. C'est quand nous faisons un petit geste qui nous coûte vers telle ou telle personne. C'est peut-être là que nous recevons effectivement de grandir, de nous élever dans les différentes dimensions de notre être et de notre existence. Cela dit, le psaume est idéaliste, mais aussi lucide et prudent. Il nous appelle à aller à la frontière, à notre frontière, Il ne nous envoie pas non plus à Babylone ou à Ninive, au cœur de la grande méchanceté. Nous ne sommes pas, ou nous ne sommes pas tous les jours, un Jonas pour aller crier au cœur de Ninive et l'appeler à un changement de vie, à un retournement. Le psaume 133 nous propose d'aller à notre frontière, là où nous pourrons aller, pas plus loin. Jésus avait cette même attention tout au long de son ministère, même si à la fin, il va jusqu'au bout et même plus loin que le bout. Mais dans tout le long de son ministère, de ses années, quand ça commençait à trop chauffer dans un coin, il prenait le large pour aller dans une contrée où il pourrait continuer à avancer dans sa mission, tout en n'en se mettant pas en danger lui-même non plus. Et donc l'exercice de notre vocation personnelle dans notre vie, elle est ainsi, je pense, à la fois déterminée et mesurée. Car si nous devons aimer Dieu et notre prochain de tout notre être, nous devons aussi penser à nous aimer nous-mêmes. Et comme on le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc là encore, l'observation, l'intelligence, la prière sont essentielles pour mesurer nos forces et exercer notre joyeuse et bonne vocation avec l'assurance que c'est Dieu qui nous porte et qui nous pardonne. Amen.
Thank you. qui est source de vie et d'espérance. Merci de recevoir notre prière d'intercession. En ces temps particulièrement troublés, en ces temps assombris par la violence et les guerres au Proche-Orient, en particulier à Gaza et en Israël, en Ukraine et en Russie, en Afrique, en Asie. En ces temps d'inquiétude, nous avons besoin de nous ressourcer auprès de toi et de nous sentir sous ton regard auquel rien n'échappe. Nous voulons te prier pour toutes celles et ceux qui sont meurtris par tant d'épreuves, les malades, les blessés, les personnes handicapées, les personnes abandonnées, affamées, sans soins, sans toit, sans la moindre sécurité, les prisonniers, les personnes sans nouvelles de leurs proches, les endeuillés, ceux qui sont isolés, ceux qui sont contraints de s'exiler et de faire face à milliers d'enjeux, ceux qui ne sont pas aimés et ceux qui ne s'aiment pas. Seigneur, face aux tumultes, les guerres et les vengeances, nous prions pour que la paix renaisse. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, tu sais que trop souvent nous nous enfermons dans nos préjugés, que souvent aussi nous nous laissons piéger par l'orgueil, la rancœur et le narcissisme. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, libère-nous de nos emprisonnements. Seigneur, lorsque nous nous égarons, incite-nous à faire un monde honorable et à pouvoir voir et à apprécier la beauté du monde. Apprends-nous à écouter avec l'oreille du cœur, car dans cette vie que tu nous donnes, tu nous offres la liberté de choix, des choix qui peuvent nous rendre meilleurs, disponibles pour nos proches et notre prochain, des choix de partage, de dépassement, des choix propices à l'éclosion de ces petites bontés qui donnent du sens à notre quotidien. Inspire-nous des gestes d'amour et d'amitié en pleine confiance, sans attente de réciprocité. Encourage-nous à agir en responsabilité et encourage-nous à vivre en communion avec le Christ. Il nous a offert sa vie pour nous sauver et qui, à tout instant, nous invite à être des passeurs de ta lumière. Amen.
Et pour celles et ceux qui le peuvent, merci de vous lever. Reprend la prière qui unit tous les chrétiens. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Grand merci, Jean-François et Joël pour la prière. Alors c'est vrai que ça vient du cœur, et moi je trouve, vous pouvez prendre place, ça vient du cœur et je trouve que c'est effectivement important d'avoir ainsi la prière d'une vraie personne qui puisse nous inspirer notre propre prière. Grand merci à Vincent, à l'orgue, avec ses pièces magnifiques, donc de Bach en premier, de Franck ensuite, et puis bientôt de Mozart. C'est vrai qu'en moyenne, il y a quand même pire que ça, comme pièce de musique pour nous ouvrir à la beauté de la vie, à la beauté. Avec une pensée en ce jour, pour le 24 août 1572, où a lieu ce massacre de la Saint-Barthélemy entre frères et sœurs, et qui est à l'origine, je pense, de notre jeune Genevois et de sa délicieuse tarte au pruneau partagée. Moi, j'aime beaucoup les jeûnes qui consistent à ajouter un dessert, en fait, à notre menu. Alors j'y vois une invitation à passer de l'enfer, c'est les autres, des massacres fraternels, à la tarte au pruneau. Ah, qu'il est bon et agréable de vivre et de demeurer dans l'union fraternelle, dans l'incroyable beauté et douceur qu'il y a à vivre en ce monde. Alors merci à vous d'être venus pour faire ce culte ensemble. Ça aussi, c'est une douceur bonne et agréable. Alors maintenant, c'est le moment de l'offrande comme une prière qui met le spirituel à l'honneur dans les différentes dimensions de notre vie. Et pendant l'offrande, eh bien, je vous propose de chanter un psaume, le psaume 89, qui est le numéro 42 de notre psautier. « Sans fin, je chanterai l'amour du Dieu Sauveur », les trois premières strophes de ce cantique 42. Voici ce que Jésus-Christ nous propose de vivre. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et Jésus ajoute, tu l'aimeras avec intelligence. C'est là le premier, le grand commandement, nous dit-il, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pour commencer à pouvoir vivre ce commandement d'amour, nous recevons la bénédiction de la part de Dieu, bénédiction donnée au singulier, donc individuellement à chacun, selon les paroles données à Moïse, par Moïse à son frère Aaron. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Alors bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout en moi bénisse ton nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen.